La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure. Bonjour, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
On est autrefois là.
Et aujourd'hui, on va lire une nouvelle brochure. Donc, cette brochure s'intitulera
Échapper à l'oubli, première tentative.
Et c'est une brochure pour, qui a été écrite par, par Giannis Dimitrakis. Donc, ce texte de l'anarchiste Gianni Dimitrakis est tiré du premier numéro de Détruisons la Bastille, voix depuis l'intérieur des murs. Un périodique publié par la Caisse de solidarité comprenant des textes de prisonniers en lutte. La traduction a été reprise de Contre-Info.
L'anarchiste Giannis Dimitrakis avait été arrêté et gravement blessé par balle policière le 16 janvier 2006, suite au braquage de la Banque nationale de la rue Solonos à Athènes. Une tempête de désinformation fut systématiquement lancée par la police, puis diffusée pour la presse, notamment après son incarcération, sur une supposée bande de gangs de bandits en noir. Alors qu'il se trouvait encore à l'hôpital, en unité de soins intensifs, le fameux procurateur antiterroriste Diotis tenta de l'interroger. Les accusations de terrorisme furent ajoutées au braquage, ainsi que d'autres braquages non résolus. Yanis revendiqua les braquages particuliers sur lesquels il était tombé, comme un choix personnel face au chantage au travail et comme critique à la fonction des banques. Durant toute son incarcération et depuis le début, il participa activement aux révoltes à l'intérieur et maintint à travers ses textes un contact pour qu'elles se développent à l'extérieur.
À partir du braquage de Dimitrakis, l'État a inclus trois autres anarchistes, Siamos et Marios Seisidis et Grigoris Tsironis, jusqu'à offrir une prime de 600 000 euros pour leur capture en octobre 2009. Siamos Seisidis a été acquitté aussi bien pour cette histoire de gang en noir que pour la tentative d'assassinat du flic qui lui a tiré dans la jambe lors de son arrestation en mai 2001, conduisant à son amputation. Du coup, il a pris 18 mois le 12 octobre 2011 pour le seul port d'armes. Siamos est actuellement à l'hôpital de la prison de Korydallos, attendant un dernier jugement en préventive, tandis que Marios Seisidis et Grigoris Tsironis ont jamais été retrouvés. En juillet 2007, Gianni Dimitrakis avait été condamné à 35 ans de prison pour le braquage. En décembre 2010, en appel, il prendra finalement 12 ans et demi. Il est sorti en liberté conditionnelle au printemps 2012.
Échapper à l'oubli, première tentative. J'ai toujours gardé en tête cette image de moi-même, regardant inconsciemment les hauts murs surmontés de barbelés à chaque fois que j'ai passé devant une prison. Devant quelle prison? Eh bien, chaque fois que j'allais rendre visite à des amis dans les quartiers de Nikea, en moto, et que je descendais la rue Grigoriou Lambraki, la prison de Korydallos avec ses murs de pierre, attirait mon regard. Je ne sais pas pourquoi cela est venu. Était-ce parce qu'il y a eu des moments où je me suis retrouvé dans les rues avoisinantes lors des manifs de solidarité pour les compagnons emprisonnés, mais sans jamais être en mesure de la toucher, vu que tous les passages pour se rendre plus près étaient complètement bloqués par la police? Ou était-ce parce que ce bâtiment énorme, imposant, qui cache avec un zèle incroyable tout ce qui se passe dans ses entrailles, un monde inconnu avec ses propres règles et lois, plein d'histoires individuelles, certaines héroïques, d'autres des tortures, aiguisait ma curiosité?
Maintenant que j'y pense, je me rappelle une autre fois où j'étais face à une prison. Je pense que c'était au printemps 2003, quand nous manifestions devant l'Institut correctionnel de Larissa. Encore une autre geôle située dans la banlieue de cette ville et près d'une école. Là-bas, le prisonnier a le privilège malheureux de vivre le climat psychotique de la plaine de Thessalie. Pendant l'été, il cuit dans son propre jus avec des températures aux alentours de 43 degrés Celsius. En hiver, il cherche frénétiquement un peu de chaleur au-dessous d'une montagne de couverture afin d'échapper aux 1 ou plusieurs degrés en dessous de zéro. Pure folie. J'ai obtenu cette information en discutant par la suite avec des prisonniers qui ont fait du temps là-bas et à Végélis Palis me l'a aussi confirmé lors de l'été 2008 lorsque nous communiquions quotidiennement.
Le point de départ de la manifestation était le parc central de la ville qui était entouré de cafés. J'avais l'impression que les locaux nous regardaient avec perplexité, comme s'ils avaient vu quelque chose qui leur était complètement étranger. Nous étions venus à Larissa car des rumeurs couraient sur la construction d'une nouvelle aile, une d'isolement, prévue pour recevoir les gens impliqués dans l'affaire de l'organisation révolutionnaire du 17 novembre. Cela signifiait leur transfert de l'aile spéciale de la prison de Corydalos, où ils étaient déjà enfermés, et ainsi de nombreux problèmes pour eux, leur famille et leur avocat, à vue de la distance depuis Athènes. Il n'est pas aisé de parcourir 700 km aller-retour en une journée pour une heure ou une demi-heure de visite. Des réflexes immédiats alors, et les sèmes noirs prirent une position combative dans le parc de Larissa et partit ensuite en une manifestation vers la prison. Naturellement, quand la manifestation commença, elle attirait l'attention des locaux partout où elle passait. Et comme prévu, dès que nous approchâmes de notre destination, deux ou trois bus de police anti-émeute et des rangées d'uniformes verts contenant quelque chose qui rassemblait à des humains nous attendaient, interdisant toute approche des prés de la prison.
Nos slogans et cris furent salués par les mains qui sortirent aussi loin qu'elles le pouvaient, à travers les barreaux de leurs cellules, agitant des hauts et des draps et sifflant bruyamment. La distance rendait impossible de reconnaître leurs visages. Chacun dut donc dessiner dans sa tête une vision imaginaire d'une personne tentant désespérément de rendre ce qu'il recevait, de la solidarité ou la présence humaine, allez savoir.
La manifestation laissa à tout un bon sentiment. Ce fut vibrant, intense, avec beaucoup de personnes et d'enthousiasme. Mais après tout, ce qui fut profondément gravé dans ma mémoire de ce jour fut une image particulière. J'ignore ce lieu de gens et combien il était à avoir la chance de l'avoir. Alors que nous parcourions la dernière ligne droite avant la prison et que nous passions devant les dernières maisons de la ville avec nos slogans vibrant dans l'air et devenant de plus en plus forts afin d'être entendus par ceux derrière les murs, mon regard tomba sur un visage, sur un balcon d'une maison assez vieille à deux stores. En regardant de plus près, j'ai réalisé surpris que c'était un homme âgé d'environ 80 ans qui, visiblement ému, saluait la manifestation avec des larmes dans les yeux. Je me demande ce que nous lui avons rappelé. Quel genre de souvenirs avons-nous exhumé des profondeurs de son esprit qu'il comparait avec ce qu'il voyait à ce moment-là? Cela reste un mystère et de peu d'importance. Ce qui compte est le fait en lui-même aussi bien que les flots d'émotions qui en résultent, ressentis pour les deux côtés. Ce n'est pas rien de s'apercevoir dans les présentes de ce que tout fait rencontre de larmes nostalgiques d'une personne qui humidifie les traces d'un passé, ce qui est une façon cruelle de rejoindre le futur qui est, malgré tout, ton présent. Un présent que d'un côté tout forge mutuellement en camaraderie avec d'autres et que, d'un autre côté, tout expérimente individuellement comme une être unique et différente au sein d'un groupe de personnes.
De toute façon, quelle que soit la raison pour laquelle je garde en moi cette image de la prison, au final, la curiosité tue les chats. Et quel chat ? Armé jusqu'aux dents et prêt à tout, ou du moins, c'est ce que je pensais. Pour dire vrai, lorsque j'étais un jeune prometteur et anarchiste, à la fin des années de l'année 1997, j'étais convaincu que jamais il ne m'attraperait, moi, le chat. Mais hélas, quelle illusion! Même si une rétrospective dans mes actes passés montre que j'ai un peu de tenue, comme on dit dans la rue. Pas très longtemps, mais j'ai réussi à être épargné. marchant comme un fakir sur les braises ardentes pendant environ 8 ans, jusqu'à ce que finalement je ne sois grillé. Parce que je marchais sur les braises vu la manière dont j'avais décidé de participer aux tâches préliminaires, celles nécessaires selon mon évaluation, afin de préparer le terrain pour l'avènement de la révolution future et profondément désirée.
Ainsi, il n'a pas fallu longtemps pour que les choses tournent mal. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et un petit peu aussi de ma maudite chance qui m'a conduit dans un des moments les plus critiques de ma vie, combattant seul avec les balles enragées des 3 flics qui semblaient les avoir gravés à mon nom, destinés à m'accompagner dans mon voyage de non-retour. Malgré tout, comme un vrai chat et cette vie, pour une raison inconnue, je fus laissé sur la jetée sans embarquer dans les bateaux du fameux Nos Chers et Noirs. Et à la place, j'ai fini dans l'endroit qu'auparavant j'ai regardé avec la curiosité de savoir ce qui s'y passait. Comme je l'ai déjà dit, c'était un endroit dans lequel je n'avais jamais prévu d'entrer quand j'étais un jeune anarchiste prometteur.
Eh bien, nous reviendrons pour un prochain épisode pour la suite de cette petite brochure qui se nomme « Échapper à l'oubli, première tentative » de Giannis Dimitrakis.
Et juste pour faire un petit note, quand Giannis il parle d'être embarqué dans les bateaux du fameux Nos Chers et Noirs, il fait référence à Sharon, un homme qui vit dans les mondes souterrains. Lui, il était le fils de Erebus et Nyx, déesse de la mythologie grecque. Et lui, il avait comme tâche de faire traverser les Styx, une rivière des enfers de la mythologie grecque. Et Charon, il est même nommé dans la Divine Comédie de Dante.